Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
À quoi ressemblait le tout premier hôpital de notre histoire? Qu'ont apporté Napoléon et De Gaulle à notre système hospitalier? Quelles grandes découvertes médicales ont eu lieu à l'hôpital? On répond à toutes ces questions et à beaucoup d'autres tout de suite avec Jean-Noël Fabiani. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes chef de service chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Alors on aime bien la sémantique nous ici et souvent on commence par ça avec Sidonie. On va commencer tout simplement par le sens de ce mot hôpital, ça veut dire quoi ?
Bien, l'hôpital, ça vient d'un mot latin, hostis, qui est l'étranger, c'est la maison qui accueille les étrangers, tout simplement. Et rapidement, ça va devenir la domus dei, c'est-à-dire la maison de Dieu, donc l'hôtel Dieu.
D'accord, donc ouais. L'ancêtre de l'hôtel Dieu s'appelait Domus Dei.
Domus Dei, la maison de Dieu.
Et ça a été fondé quand, ça ?
Oh, ça a été fondé, disons, dans les années 500, entre 500 et 600. Hein, c'était un établissement qui accueillait l'étranger, celui qui passait, et en particulier le pèlerin qui passait. Puis rapidement, on a accueilli les indigents, les miséreux, et de fil en aiguille, en quelque sorte, eh bien, on a été obligé de s'occuper des malades.
Donc ce tout premier hospice, il naît au cœur de Paris, c'est ça ?
Alors, l'Hôtel Dieu de Paris, bien entendu, naît sur la place où se trouve l'Hôtel Dieu actuel, mais en fait pas l'emplacement actuel, sur ce qui est le Square Charlemagne, si vous voulez, actuellement.
On rappelle dans quel arrondissement on est ?
Le centre de Paris.
Oui, on est tout près de la cathédrale Notre-Dame.
On est au pied de la cathédrale de Paris.
Ce qui est logique. Puisqu'on accueillait les pèlerins, c'est ça.
On accueillerait les pèlerins qui servaient beaucoup, car ils participaient à la construction des cathédrales. Donc on leur offrait le gîte et le couvert et en remerciement, eh bien, ils construisaient, ils montaient les pierres tout au sommet des tours.
Et à l'intérieur, il y avait déjà des rudiments de médecine. Je rappelle qu'on est en 500, c'est ça, 600 après Jésus-Christ.
Oui, on est dans le Haut Moyen-Âge. Alors, des rudiments de médecine, n'exagérons pas.
J'ai dit rudiments. Et déjà, j'exagère, c'est ça ?
Oui, on est exagéré. En ce sens que on est encore dans la théorie hippocratique, c'est-à-dire qu'il y a les humeurs, il faut qu'elles soient en équilibre, et que quand elles soient en déséquilibre, il faut lutter contre ce déséquilibre. Alors qu'est-ce qu'on a à sa disposition ? On a ce qu'on appelle les simples, c'est-à-dire des plantes. Alors les plantes qu'on connaît, le thym, le laurier, la sarriette et ainsi de suite, qui maintenant sont utilisées en cuisine plutôt.
On fait des tisanes, quoi.
Des tisanes, oui, on les pilait et ainsi de suite. On a des métaux lourds comme le mercure qui est utilisé, ce qui est pas franchement bon. Aujourd'hui, on le sait. Mmh. On utilisait aussi beaucoup les fientes d'animaux étaient utilisées pour faire des médicaments. Et puis surtout, et ça va durer très longtemps, on a deux grands moyens pour lutter contre le déséquilibre des humeurs. Eh bien, il faut les chasser, ces mauvaises humeurs qu'on appelle les humeurs pécantes. Il y a la saignée d'un côté et il y a le clystère de l'autre.
C'est quoi le clystère ?
Alors la saignée, on comprend,
c'est le lavement. Ouais.
Ah oui.
Le lavement, on vous vide l'intestin de tout ce qui ne peut être que mauvais, parce que les matières fécales, ça ne peut être que mauvais. Et pendant un millénaire, eh bien, le traitement de la médecine en général, ça va être saigner, clystère, clystère, saigner.
Avec beaucoup de dégâts, j'imagine, ou quand même quelques bienfaits ?
Non, pas des dégâts. Simplement, ça pouvait rendre service dans certains cas, pas toujours. Mais au XVIIe siècle, Gaffoirus, quand il parle dans Molière, il parle de clystère et de saigner.
Ouais. Alors vous racontez dans votre livre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, qui est publiée aux éditions Les Arènes. Vous racontez un petit peu de ce qui se passait dans cet ancêtre de l'hôtel Dieu, et vous dites que les dames augustines passaient beaucoup de temps à coudre. Pourquoi ?
Bien, les dames augustines, les pauvres, c'est elles qui assuraient en quelque sorte ce qui se passait tous les jours dans ces salles communes. Vous savez, il y avait un grand traitement aussi. Il y avait un grand crucifix sur le mur du fond de la salle commune. Et sur la bonne place dans les lits, parce qu'ils étaient à deux ou trois dans un lit, c'était celui qui pouvait regarder le crucifix, dont il pouvait tirer, évidemment, le seul bénéfice véritablement en lequel il pouvait croire. Mmh. Et les dames augustines, qu'est-ce qu'elles font ? Elles cousent quoi ? Des linceuls. Parce qu'on meurt beaucoup quand même à l'hôtel Dieu. Alors, elles font des linceuls toute la journée. Vous imaginez, pour éliminer les corps de ceux qui sont morts dans la nuit.
Et puis c'est vraiment au Moyen-Âge que les hospices religieux vont se transformer sous la pression d'un double phénomène. D'abord la démographie, c'est ça ? Il y a beaucoup, beaucoup de monde ?
Alors, ce que l'on oublie souvent, c'est que entre l'an 1000 et l'an 1300, la population française est multipliée par 3. Ce qui va entraîner bien sûr des famines, parce qu'on n'a pas assez de quoi les nourrir, mais également ce qui va favoriser les épidémies, parce que les gens se regroupent dans les villes. Et pour faire une épidémie, il faut mieux que les gens soient les uns sur les autres. Donc dans une ville, on a moins de chances d'avoir une épidémie en campagne que dans une ville. Et là, les grandes épidémies, peste et choléra, bien entendu, eh bien, prennent tout leur essor.
Et alors ce qui est très étonnant, c'est que les hospices, les premiers hôpitaux, ne sont pas construits, on l'a compris déjà avec les pèlerins, mais pour soigner les malades. C'est plutôt qu'on... construit pour quoi ? Pour accueillir les indigents ?
D'abord, il faut bien vous mettre dans l'esprit que pendant très longtemps, jusqu'au 18e, 19e siècle, maladie et misère, ça n'est pas clairement séparé. Ah oui. Les deux vont ensemble. Donc, pendant très longtemps, l'hôpital va servir à cacher les malades contagieux. On commence à comprendre ce que c'est qu'une contagion. Et puis aussi les miséreux. Parce que les miséreux, ils sont gênants. Ils sont gênants pour le pouvoir politique. D'abord parce que les miséreux, ils peuvent venir des truands, et ça, c'est très dangereux pour une ville. Et puis, ces miséreux peuvent aussi gêner la vie des bourgeois dans les villes. Les prostituées, il faut les mettre quelque part. Les malandrins, il faut les mettre quelque part. Ou les mettre, eh bien, à l'hôpital. Et l'hôpital va peu à peu devenir une prison. Et c'est ce que vont faire les grands pouvoirs politiques du XVIIe siècle en particulier, c'est de mettre, alors, les femmes à la salpêtrière, les malandrins à Bicêtre et les invalides aux Invalides.
Donc la création de ces hôpitaux, c'est exactement ce que vous nous avez décrit.
Exactement. Louis XIV ne veut plus de tous ces gens qui encombrent les rues. Donc il faut les mettre quelque part. Et on les met de quelque part dans des endroits qui sont des hospices, certes, mais des hospices fermés, donc ouais, des prisons.
Donc des prisons, avec des cachots d'ailleurs dans certains de ces hôpitaux.
Oui, il y a les cachots, fameux cachots de Bicêtre, épouvantables, à 5 mètres sous terre, oui, où les pauvres gars sont enchaînés et crèvent de faim.
Alors tous nos grands hommes...
Mais l'hôpital a bien changé.
Bah oui, heureusement, c'est là qu'on est heureux de vivre en 2016 à Paris. Hein, quand même. Tous nos grands hommes
se sont... Dieu, mais ça fout un peu la trouille.
Oui, on n'a pas envie de voyager dans le temps dans ces cas-là. Allez, on va parler de De Gaulle, on va parler de Napoléon, on va parler de Louis XIV, tous ces grands hommes qui se sont intéressés à l'hôpital. Restez avec nous.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité de découvrir la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours avec le professeur Jean-Noël Fabiani, chef du service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes de l'hôpital Pompidou à Paris. Vous enseignez aussi l'histoire de la médecine à la faculté René Descartes. D'ailleurs, de quand date cette première faculté de médecine française ?
Alors, la première faculté de médecine française, c'est celle de Montpellier, hein, qui date du XIe siècle, hein, 11e, 12e siècle. Et... Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette faculté? Parce qu'elle n'a rien à voir avec une faculté telle qu'on la conçoit aujourd'hui.
Qu'on y apprend?
On y apprend surtout à discuter les textes anciens. Car on commente en permanence, en particulier Galien, Aristote, Hippocrate, et les médecins parlent en latin, en grec, et ce sont avant tout des discours. Et ils s'intéressent finalement assez peu à ce que nous appelons aujourd'hui la médecine, c'est-à-dire soigner les malades.
Il n'y a pas de pratique, vraiment?
Il y a très peu de pratique. C'est vraiment un enseignement qui va être très doctrinaire, et cette séparation entre l'université d'un côté et son enseignement en chaire, et à côté la pratique dans les hôpitaux, la pratique même de la médecine, vont très longtemps être séparées.
Mais ça veut dire qu'on peut même aller jusqu'à dire que les médecins n'ont pas vraiment leur place à l'hôpital à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est d'abord les religieux qui y sont et les médecins y rentrent assez peu, c'est ça ?
Les médecins y vont assez peu, et quand ils y vont, c'est le matin, ils font un peu la charité et rapidement, ils partent dans leur clientèle privée, dans l'après-midi, et c'est là où ils font leurs soins. Mais ça dure très longtemps, jusqu'au 19e siècle, ça va se passer comme ça. Les médecins, pendant très longtemps, les chirurgiens, par exemple, vont aller opérer au domicile des gens. Ils arrivent avec leurs trousses sous le bras et ils cherchent un plan dur pour opérer. Et c'est là la fameuse histoire où ils demandent quel est le plan dur où je peux vous opérer, et le seul endroit, c'est le billard. Et c'est pour ça qu'on dit encore aujourd'hui qu'on passe sur le billard. Car c'est le seul plan dur qu'il y a dans un domicile de bourgeois.
Ah oui ?
C'est ce que j'allais dire, oui, dans un domicile de bourgeois, parce que les billards, bon, il n'y en a pas non plus...
Non, mais les médecins, partout. En fait, les médecins travaillaient essentiellement avec les gens qui avaient les moyens de se les payer,
c'est ça ? Bien entendu, bien entendu. Les pauvres sont à l'hôpital.
Ouais.
C'est à partir de quand que l'Église va commencer à autoriser plus largement les médecins à entrer à l'hôpital ?
Soyons justes, l'Église n'empêche pas les médecins d'entrer à l'hôpital. Ouais. Ce sont les médecins qui, naturellement, ne vont pas à l'hôpital. En revanche, ce sont des clercs, en effet, pendant tout le Moyen-Âge et pendant toute la plus grande partie du XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont des clercs qui tiennent en fait, et des sœurs, et en particulier des ordres qui deviennent des ordres de soignants, comme le fameux ordre de la charité, d'où le titre du livre, parce que une charité, qui était un hospice de la charité, c'était comme un hôpital, donc l'hôpital qui se moque de la charité, en fait, c'est pour ainsi dire un pléonasme, parce que c'est la même chose.
Oui, d'accord.
Jean-Noël Fabiani, on a parlé de, vous avez évoqué Louis XIV qui a fait beaucoup pour les hôpitaux à Paris, mais ce sont surtout Napoléon et De Gaulle qui ont beaucoup œuvré pour réformer cet hôpital. Quand il arrive au pouvoir en 1799, Napoléon Bonaparte trouve un système hospitalier en quel état ?
Alors, vous remarquerez que ce sont des hautes pointures qui touchent à l'hôpital. Il n'y a pas grande personne qui touche en dehors de Louis XIV, Napoléon et De Gaulle, et peu de gens y touchent. Alors oui, quand Napoléon, enfin quand Bonaparte arrive au pouvoir, c'est une catastrophe parce que la Convention nationale a supprimé les hôpitaux. D'abord parce qu'on a envoyé ailleurs toutes les sœurs qui étaient celles qui s'occupaient des gens, parce qu'elles étaient des religieuses, donc Carnot les jette en quelque sorte de l'hôpital, et puis parce que Saint-Just, qui détestait l'hôpital et qui croyait que la maladie et la misère étaient la même chose, a dit « Nous qui allons supprimer la misère, on n'aura plus besoin d'hôpitaux, donc on va vendre les hôpitaux, on les vend comme biens nationaux, achetés en assignat, il y a des gars qui ont fait des bonnes affaires, et il y a grosso modo plus d'hôpitaux en France au moment où le directoire arrive, et il faut tout remonter, tout retricoter, parce que malheureusement, la misère n'était pas disparue. »
Et Jean-Noël Fabien, il y a des faux médecins, vous racontez ça dans votre livre, c'est l'hôpital qui se moque de la charité aux éditions les Arènes, c'est-à-dire que tout le monde peut plus ou moins se dire médecin, c'est ça,
oui,
dans cette période.
Oui, c'est une conséquence de la loi Le Chapelier, puisque tout le monde, au principe d'égalité, peut se prétendre faire le métier qu'il souhaite. Donc un certain nombre de charlatans deviennent des médecins, et d'ailleurs, conséquence de cette loi, l'université va être supprimée. Donc on ne forme plus de docteurs en médecine, et donc il y a encore des médecins qui sont valables, mais il y a aussi des charlatans qui font n'importe quoi. Et on est dans une situation absolument dramatique. Et là, il faut une poigne.
Alors qu'est-ce qu'il fait Bonaparte?
Parce que c'est Bonaparte.
Lui qui a la poigne.
Quelle
décision il prend?
Bonaparte. Il arrive et il a la poigne. D'abord, il oblige avec le directoire. D'abord, ils obligent à ce que toutes les villes aient un hôpital et ils confient au maire la responsabilité de l'hôpital. Il l'a toujours.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Il l'a toujours.
Ça date de Bonaparte.
Absolument. Ouais. Et ensuite, Bonaparte dit, comment ça? Il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux? Bon, on va créer des médecins. Oui, mais ils viennent que le matin. Eh bien, il y en aura qui seront là toute la journée et la nuit aussi. Et il crée l'internat. Et il crée l'internat des hôpitaux en 1802. Il fait un concours. Alors, il crée ça au mois de février, il fait le concours en septembre, il ne traîne pas. Il y a 26 gars qui sont nommés. Et ces gars-là sont chargés d'assurer la présence médicale nuit et jour à l'hôpital. Mais ce faisant, il ne s'en rend pas compte, je pense, enfin, à moins qu'il ait un génie prévisionnel extraordinaire, Bonaparte, il va faire venir les meilleurs, puisque c'est un concours, donc il y a l'élitisme révolutionnaire derrière, il va faire venir les meilleurs à l'hôpital, et pendant tout le 19e siècle, les médecins vont venir à l'hôpital et vont y rester. Et autrement dit, ce concours de l'internat va transformer complètement la médecine française.
C'est une inversion de logique par rapport à ce qui a existé pendant tous les siècles précédents.
Exactement.
Et alors De Gaulle ? Quelques siècles plus tard, parce que on fait vraiment la liste des grands hommes. On a fait Louis XIV, Napoléon...
Alors, les hôpitaux, avant 1958, sont restés quand même dans un état dramatique, avec des salles communes, avec encore des médecins qui venaient le matin...
Mais plusieurs malades dans le même lit
plusieurs malades dans le même lit, mais
ça avait changé.
Des conditions assez redoutables, et puis surtout, une séparation entre l'université d'un côté et les soignants de l'autre. Et, s'inspirant du modèle américain, Robert Debré propose une réforme qui est les centres hospitalo-universitaires.
Les CHU, on va vous expliquer dans le détail comment ça s'est mis en place et quelle résistance il a fallu vaincre.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On découvre l'histoire de nos hôpitaux sur RTL grâce au professeur Jean-Noël Fabiani qui publie « C'est l'hôpital qui se moque de la charité » aux éditions Les Arènes. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que cette expression vient d'un ordre religieux, c'était ça, les sœurs de la charité ?
Les sœurs de la charité, tout simplement, qui avaient donc des hospices de la charité. Et une charité ou un hôtel-dieu, c'était la même chose. Ouais. Donc quand l'un se moquait de l'autre, c'était le sens que l'on emploie aujourd'hui.
Et alors, vous ouvrez votre livre par une anecdote qui date de votre première année de médecine et qui est assez révélatrice finalement. De la difficulté des différents services ou des différentes entités qui font un hôpital à s'entendre. C'est quoi cette anecdote ?
Oh bien, c'est tout simple. La première fois que je suis rentré dans une salle d'hôpital, il y avait une dame qui venait de laver à grand eau le couloir de la salle et on arrivait tous avec nos chaussures, tous les étudiants, tous les élèves, et elle disait « marchez pas dans mon mouillé ». Et c'est normal, elle défendait son travail.
Ben oui.
Et cette phrase, je l'ai entendue, mais des dizaines et des dizaines de fois, si ce n'est pas des centaines, tout au cours de ma vie, comme si tous les matins, eh bien, on lavait à grand eau le couloir de l'hôpital au moment où tous les médecins arrivaient. Oui. Donc, quelque part, c'est cette incompatibilité de trouver une organisation vraiment satisfaisante qui, quelque part, est un défaut de l'hôpital. Mais il a tellement de qualités, oui, l'hôpital public français.
C'est vrai qu'il a beaucoup de qualités.
Et il s'est beaucoup réformé, d'ailleurs.
Oui. Et ça oblige d'ailleurs le chef de service et ses étudiants de marcher de part et d'autre du couloir en longeant les murs.
Et sur la pointe des pieds.
J'irai ça chez moi maintenant. Marchez pas sur mon mouillé, j'aime beaucoup.
C'est pas mal. Jérôme, si tu nous entends.
Les réformes, justement, on en parlait. Il y en a eu pas mal avec Louis XIV, avec Bonaparte. Et puis, évidemment, le général de Gaulle et son premier ministre, Michel Debré, qui décide de créer les CHU. Vous nous le disiez, ça a réuni un peu, on va dire, l'enseignement et la pratique. Mais ça va pas se faire si facilement. Ça va coincer un peu au début. Pourquoi ?
Ça coince, évidemment, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tout ce qui touche à l'hôpital coince toujours quelque part. Et puis là, parce qu'on demande aux médecins des hôpitaux d'être plein temps hospitaliers. C'est-à-dire le vieux rêve, quand enfin les médecins soient tout le temps à l'hôpital. Mmh. Et on crée le plein temps hospitalier. Alors,
ça fait râler les médecins ?
Ça fait râler certains médecins qui gagnaient beaucoup d'argent à aller travailler en ville l'après-midi, à gagner, notamment les chirurgiens qui avaient des émoluments beaucoup plus importants que ce qu'on leur proposait comme salaire.
Et une clientèle privée qui avait de l'argent.
Donc, pour passer en quelque sorte, De Gaulle bien sûr met le doigt immédiatement sur le problème et on décide de créer le secteur privé hospitalier. C'est-à-dire que les chefs de service et bien aussi tous les médecins titulaires de l'hôpital peuvent avoir une clientèle privée très réglementée, dans un cadre très précis.
C'est toujours vrai aujourd'hui.
Ils peuvent exercer une clientèle privée comme s'ils allaient opérer en clinique ou comme s'ils allaient traiter des malades, être personnels.
C'est quoi? C'est quelques pourcentages? Ça se calcule
alors,
comme ça?
Il y a un pourcentage. Au départ, il y avait 8% de la clientèle qui était autorisée pour les chefs de service et leurs principaux adjoints.
C'est 29, je crois, CHU sont prévus à la construction. Ils vont mettre un peu de temps à se construire.
Ah oui, parce qu'en 1968, au moment de la révolution étudiante, il n'y en a qu'un qui fonctionne, c'est celui de Saint-Antoine. Et alors là, les choses vont s'accélérer. Après 68, les CHU vont ouvrir, les médecins vont rester à l'hôpital et ça va aboutir à un résultat formidable parce que la production en termes de publication, la qualité des soins, les investissements extraordinaires qu'on oublie souvent, de la part de l'administration et donc des pouvoirs publics ont été absolument considérables, ce qui a fait de la médecine française cette fameuse classification de l'an 2000 où elle a été classée la première dans le monde, à la fois pour la qualité de sa médecine et pour la justice de ses soins, parce que c'est quand même une des grandes qualités de la médecine française, c'est la justice des soins appliqués à qui que ce soit.
Vous avez quand même un peu employé le passé, ça veut dire qu'aujourd'hui l'hôpital est affaibli ?
Eh bien, disons que l'hôpital, il doit aussi réagir en permanence à l'évolution des choses. La médecine évolue à une vitesse absolument considérable. Il faut s'adapter en permanence aux nouveaux défis technologiques. L'hôpital s'y attache, parfois avec trop de lenteur. En tout cas, c'est ce que pensent les médecins. Mais moi, j'ai la chance, par exemple, de travailler dans un hôpital magnifique, qui est l'hôpital européen Georges Pompidou, où il y a le confort du malade, où il y a vraiment des moyens de thérapeutique pour les médecins qui sont absolument remarquables. Et malheureusement, ça n'est pas le cas de tous les hôpitaux français.
Pour parler de cette excellence, vous travaillez aujourd'hui, par exemple, sur des greffes de cœur ?
Bien entendu, je suis un service qui fait des transplantations cardiaques, transplantations pulmonaires, évidemment.
Celles dont on parle dans l'actualité, les cœurs Carmat, là, c'est...
Oui, alors, évidemment, l'expérimentation Carmat a eu lieu dans mon service, grâce au professeur Alain Carpentier.
C'est quoi un cœur Carmat ?
C'est un cœur artificiel, c'est-à-dire un cœur totalement implantable, où cette fois-ci, on n'attend pas une greffe, mais où le malade a définitivement en place un cœur artificiel.
Alors, on va voir, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. On va voir que l'hôpital a été un lieu d'invention, d'avancée comme ça au fil des décennies, au fil des siècles. Tiens, par exemple, le stéthoscope, le vaccin, le chloroforme ou même le Viagra. On va vous raconter tout ça.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est l'histoire de nos hôpitaux et des grands progrès de la médecine qu'on vous raconte ce soir dans votre cabinet de curiosité. Nous sommes en compagnie du professeur Jean-Noël Fabiani, chef du service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital Pompidou à Paris. L'hôpital, on le disait, c'est un lieu d'invention formidable. Par exemple, pour commencer, que peuvent lire les passants quand ils passent à proximité de l'hôpital Necker à Paris ?
Une plaque, elle n'y est plus parce qu'on a fait des travaux récemment, mais il y a une plaque qui dit que dans ces lieux, l'ANEC a inventé le stéthoscope. Ce qui est quand même l'emblème même de la médecine, le stéthoscope.
René Laennec,
c'est un des hommes qui a décrit la plupart des maladies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et ce jour-là, il était à l'hôpital Laennec, donc, parce que maintenant ça s'appelle l'hôpital Laennec, mais c'était l'hôpital Necker à cette époque, eh bien, il le voulait sculpter, il voulait entendre le cœur d'une grosse dame.
On est au début du 19e siècle, c'est ça?
Début du 19e siècle. Ouais. Et c'est une grosse dame. Et à l'époque, on l'entend en mettant son oreille sur la poitrine. Et là, il l'entend pas parce qu'elle est tellement grosse. Puis en plus, elle est tout, reste habillée. On ne déshabillait pas les gens à l'époque. Ça ne se faisait pas. Ouais. Surtout Laennec qui était très prude. Et il ne sait pas comment écouter son cœur. Et il voit des gamins qui jouent sous les guichets du Louvre le soir et qui tapent sur une poutre et qui écoutent le bruit à l'autre bout de la poutre. Il dit, mais si je faisais la même chose? Et il prend le lendemain, il roule du papier que lui tend la bonne sœur qui l'accompagne, et il fait ce rouleau et il met le rouleau sur la poitrine de la grosse dame, et là il entend son cœur, il entend le bruit de son cœur.
Génial.
Donc il a inventé l'auscultation, c'est-à-dire la stétacousie médiate à l'aide d'un instrument.
Il l'a fait améliorer, on l'imagine, son stéthoscope.
Oui, il l'a fait un petit instrument, mais unique, avec simplement un écouteur en buis, et c'est les Américains qui transformeront le stéthoscope avec deux écouteurs bien plus tard.
Alors on va continuer d'avancer comme ça d'un progrès médical à un autre, celui qui permet d'accoucher sans douleur. Mais alors, ce que vous racontez dans votre livre, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, publié aux Arènes, Jean-Noël Fabiani, c'est que les médecins ont dû s'opposer à l'Église pour s'avancer sur cette question.
Ah,
pourquoi?
Oui, bien entendu, parce que accoucher sans douleur, ça allait contre un des grands principes de la Bible: tu accoucheras dans la douleur. Et personne ne veut accoucher avec les nouveaux moyens, le chloroforme qu'on vient de trouver et qui permet évidemment de supprimer la douleur.
Peut-être que quelques femmes en secret quand même.
Heureusement, il y a la reine Victoria. La reine Victoria, c'est une pionnière, parce qu'elle dit, moi, c'est mon 7e, d'accord, mais je veux pas accoucher dans les mêmes douleurs que d'habitude. Et elle fait venir le médecin pour l'anesthésier au chloroforme. Et puis, elle accouche et elle s'en trouve très bien. Elle le dit à tout le monde, ça a été formidable, j'ai rien senti. Mais c'est très important, la reine Victoria. Pas parce qu'elle est la reine d'Angleterre, pas parce qu'elle est l'impératrice des Indes, mais parce qu'elle est la chef de l'Église anglicane.
Bien sûr.
Et qu'en tant que chef religieuse, elle va en quelque sorte dédouaner toutes les futures parturientes qui vont faire comme la reine, on va accoucher à la reine.
Mais dès le milieu du 19e, c'est-à-dire ça va tout de suite...
Immédiatement dans les pays.
Cette mode va se lancer, quoi.
Dans les pays anglo-saxons.
Ouais.
En France, ça mettra beaucoup plus de temps, parce que ce n'est finalement que dans les années 50 que l'accouchement sans douleur deviendra une règle.
Qu'est-ce qu'on utilisait avant le chloroforme? L'éther?
Alors, on était l'éther. Mais enfin, l'éther pour les accouchements, c'est pas terrible, parce que comme on accouche très souvent la nuit, que nous sommes au 19e siècle, avec quoi s'éclaire-t-on? À la bougie.
À la bougie, ah oui.
Alors, mettre de l'éther alors qu'il y a des bougies qui flambent, vous doutez que c'est quand même assez dangereux.
Mauvaise
Donc
idée.
Le chloroforme est quand même plus pratique comme médicament.
Alors, autre découverte qui nous a fait rire en lisant votre livre, Jean-Noël Fabiani.
Surtout vous, Thomas.
Bah oui, pourquoi pas. Le Viagra. Le Viagra, c'est vrai que son effet sur l'érection a été trouvé par hasard.
C'est absolument par hasard. C'est-à-dire qu'on essayait, grâce à cette substance qu'on appelle le sildénafil, de dilater les artères du cœur. On disait, c'est formidable, ça va traiter l'infarctus du myocarde. Et puis, on s'aperçoit, au bout d'un certain temps, on fait un essai chez des gens, on tire au sort des enveloppes de deux groupes, un groupe traité, un groupe pas traité, hein, comme on fait d'habitude, expérimentalement, et on s'aperçoit que ça marche pas. Alors on dit, bon, on arrête l'expérience, et on récupère les enveloppes. Mais on récupère qu'un seul type d'enveloppe. Celui de... ça ne marchait pas.
Celui des placebos.
Celui des placebos. Et on se dit, mais pourquoi les autres ne veulent pas rendre les enveloppes? Et on commence à s'inquiéter, pourquoi ils ne rendent pas les enveloppes? Et on s'aperçoit qu'il y avait un effet qu'on n'attendait pas, mais qui était très très utile à tous ces gens qui étaient souvent des grands malades et qui ont retrouvé une érection alors qu'ils l'avaient perdue depuis longtemps.
Et ça s'appelle là, ce fait de
la
trouver...
La sérampidité.
La sérampidité. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, de découvertes médicales liées au hasard.
Mais bien sûr, en médecine, vous savez, très souvent, il y a des découvertes qui sont liées au hasard. Et ces découvertes liées au hasard, soit on est capable de les interpréter et on devient un génie, soit on les laisse passer et malheureusement, ça se perd dans la nuit des temps.
Oui. Alors ce fameux Napoléon et le vaccin.
Ah, Napoléon et le vaccin, c'est formidable.
Donc c'est le vaccin qui doit beaucoup à Napoléon et pas l'inverse.
Oui, un peu. Parce que Jenner invente la vaccination en Angleterre. Personne ne l'écoute, personne ne le croit. Vraiment, il est considéré comme un nul. Et puis en face, il y a Napoléon qui lui veut envahir l'Angleterre. Il a quand même 500 000 hommes à Boulogne. Et le bruit se répand qu'en Angleterre, certes, il y a des soldats, mais ça, on est prêt à se battre avec les soldats, avec des baïonnettes, ça, on sait faire. Mais il y aurait aussi un virus, une sorte de bestiole qui vous donne la petite vérole avec des boutons partout et on meurt de ce virus. Et les soldats veulent plus y aller. Alors Napoléon se renseigne un peu, il a un très bon conseiller qui s'appelle Guillotin, et Guillotin lui dit « Mais il y a Jenner qui a inventé un vaccin qui permet de lutter contre cette maladie. » Et Napoléon décide, comme toujours, un coup de poing sur la table, eh bien on va proposer à la grande armée de se faire vacciner.
Et alors est-ce qu'il a été suivi? Est-ce que les grognards se sont fait vacciner?
Pas autant qu'on pouvait l'espérer. Oui. Mais Napoléon a... Alors après, il est parti d'Angleterre en quelque sorte pour se diriger vers Austerlitz. Donc c'est une autre histoire et donc on oublie. Mais il a voulu quand même que tous les Français puissent se faire vacciner. Il vaccine le roi de Rome, son propre fils, et il va proposer la vaccination générale en France.
Ça veut dire qu'il y aura des centres de vaccination qui vont se créer un peu partout?
C'est ce qu'il propose.
Une sorte de maillage du territoire?
Absolument. Malheureusement, il n'a pas réussi tout à fait son projet initial.
Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani, c'était fascinant, passionnant de vous écouter nous raconter l'histoire de nos hôpitaux finalement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, c'est le très bon titre de votre livre qui est publié aux éditions Les Arènes. Merci.
Merci à vous.
Merci et tout de suite, on va vous raconter le premier festival de Cannes qui n'a jamais eu lieu.